Ah non.
Je vous ai... Mais... Ah, mais je me suis trompé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? Ah, quel plaisir.
Un petit live à l'arrache.
Un petit live à l'arrache du vendredi. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de regarder mon téléphone, j'ai reçu un message. Putain, j'ai la voix cassée. Toujours pas de chauffage dans ton immeuble? Non, toujours pas. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Pas trop fatigué? Si, 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 un peu. Mais ça va, c'est vendredi, c'est chill. On va se détendre. Pile à l'heure, je viens de terminer la VOD. Bah voilà. Ça veut dire que tu fais partie du club Backseat, et ça, c'est cool. Je rappelle que les membres du club Backseat ont d'ores et déjà accès à l'intégralité du replay d'hier soir. C'est ça, faire partie du club. C'est les petits plus. Merci Simply Nemo. Je veux ce Pilou-Pilou. Il est trop bien. Je crois que vous pouvez l'acheter, mais alors pas la version Twitch. La version Twitch, c'est un cadeau exclusif du coup de Twitch pour les participants du The Event il y a 2 ans. Mais c'est un modèle de Pilou-Pilou que vous pouvez acheter. Hein. Ah, je suis dans le club, j'avais zappé. C'est à partir de combien le club? Le club, c'est à 15 euros par mois. Mais les VOD en avance, c'est à partir de 10 euros par mois. Salut Jean, je voulais te remercier. J'ai toujours cru que Sandrine Rousseau était une chieuse sur Twitter, mais ton émission m'a permis de découvrir une personne posée et plutôt cool. Twitter n'aide vraiment pas certains politiques. Bah, tant mieux. Enfin, oui, tant mieux. Bah, c'est le but, hein. Backseat, les interviews politiques, c'est pour vous faire découvrir des gens. C'est vrai que l'interview de Sandrine Rousseau était très différente de ce qu'on avait fait il y a 2 ans. Et je l'ai trouvé de très haut niveau, Sandrine. C'est 5 euros les VOD? Ah pardon, Pam, c'est 5 euros les VOD. À partir de 5 euros par mois, vous avez accès aux VOD en avance. Et il y a votre nom au générique. Direct comme ça, Raphaël va revenir en chroniqueur. J'espère que Raphaël reviendra en chroniqueur, ouais. J'espère qu'il acceptera si je le propose. Comment ça, on peut pas avoir le Pilou-Pilou? Ah, le Pilou-Pilou, non, vous pouvez pas l'avoir. Ça, c'est une édition limitée. C'est même pas dans le merch Twitch, je crois pas. Elle a juste trop besoin de se rattraper des sorties récentes, à mon sens. De quelles sorties? En même temps, Sandrine Rousseau, elle est déjà ancrée dans le paysage politique, donc elle a plus besoin de coups d'éclat pour qu'on l'écoute. Ouais. Trop content d'avoir assisté à l'émission, c'était cool. Merci à toi d'être venu. Merci, merci. Merci à toutes les personnes qui sont venues dans le public hier. Il y avait vachement de monde dans le public hier, ça m'a fait plaisir. Vous étiez super nombreux. Il y avait des membres du club, tout ça. C'était pas la même stature Rousseau entre il y a 2 ans et hier, j'ai trouvé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. T'as une petite voix. Ouais, j'ai la voix enrouée, mais c'est parce que j'ai froid. J'espère que j'ai pas attrapé une merde. Hein. Oh non! Tiens, d'ailleurs, à propos des gens dans le public, il y a quelqu'un qui m'a offert ça. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit: Attends, j'ai un cadeau pour toi, est-ce que t'aimes bien les goodies politiques? Je lui ai dit: Évidemment, j'adore, j'en mange. Et du coup, elle m'a offert ça en me disant que c'était son mec qui avait été garde de nuit à l'époque rue de Solferino, là où était le siège du PS, et qu'il avait récupéré ça. C'est une clé USB. C'est une clé USB toute pourrie des années 2000. Genre, il doit y avoir 2 gigas dessus, un truc comme ça. Mais du coup, je suis content. C'est un objet collector PS. Merci pour le cadeau. Ça me fait plaisir. Un retour de Sandrine Rousseau sur l'émission? Bah non, Sandrine Rousseau, elle était contente. Il n'y a pas eu de retour particulier. Elle m'a dit merci de m'avoir invité. J'ai pas eu de retour particulier. Hop là. Après, elle connaît l'émission. Et donc voilà, elle se sent à l'aise dans l'émission, quoi. Elle a combien en stockage? La clé USB PS? Je sais pas du tout combien elle a en stockage. Je vais regarder. Hop. Toum. Comment on fait pour savoir ce PC? La clé USB, elle a 1,83 Go. À l'ancienne, hein. À l'ancienne, les clés USB. Elle a 1,83 giga. Hop. Doudoudoum. tombé dans le panneau, maintenant t'as un Trojan. Trojan du PS, ça va. Je crois que la personne qui a été invitée le plus de fois, c'est Sandrine. Sandrine Rousseau, elle est venue du coup 3 fois dans Backseat. Sur la saison 1 de Backseat, elle était venue à 2 reprises. Elle était venue après la primaire des écolos, où elle avait perdu face à Jadot. Et ensuite, elle est revenue après le premier tour, je crois. Je me souviens plus. Sais pas ce que t'en penses, mais la première question posée par vidéo par le militant écolo du style « Nous sommes éduqués par les masses » est insupportable et rend inaudible le discours écolo. Hein? Mais c'était pas ça la question. Non, si, je me souviens plus. Du coup, je précise ce que tu veux dire parce que je comprends pas. Par les masses. Par le militant, nous sommes éduqués, pas les masses, est insupportable. Ah, le militant écolo qui se prétendait mieux éduqué. J'ai pas retenu ça dans la question. Je t'avoue que je l'ai plus vraiment en tête. Mais sur le moment, ça m'a pas paru insupportable. J'ai l'impression que c'était une sempiternelle question, comment on fait pour être écolo dans le paysage médiatique dans lequel on est. Ce qui est une très bonne question, d'ailleurs, au demeurant. Merci d'ailleurs aux questions que vous avez envoyées, hein, merci beaucoup. On en a diffusé 2, j'en avais prévu 4, mais du coup je jongle un peu avec le déroulé que j'ai. On avait pris du retard. Donc vraiment merci pour vos questions que vous envoyez en vidéo, c'est très très cool. Et je le redis, ce serait cool qu'on ait aussi des meufs qui posent des questions en vidéo, parce que je ne reçois que des questions posées par des mecs. C'est comme ça. Est-ce que tu as essayé d'inviter de Villepin? Oui, mais il a dit non. Je crois qu'on a essayé de l'inviter de Villepin, mais qu'il a décliné l'invitation. On réussira peut-être plus tard, je sais pas. C'est pas une question d'être éduqué, mais d'être informé. C'est pas pareil. Ouais. Après, tous les militants, quel que soit leur secteur de militantisme, sont plus informés que la moyenne de la population sur le problème en question. C'est le principe d'être militant, c'est que tu es un peu plus au point sur le sujet pour lequel tu milites. Et on a toujours l'impression que les masses sont bêtes. Que diable! Si les gens avaient lu ce que j'ai lu, vu ce que j'ai vu et rencontré qui j'ai rencontré, alors ils penseraient comme moi. Oui, sans doute. Sans doute. Des belles constructions sociales qui font que les meufs remettent toujours en cause leur pertinence là où les hommes ne se posent pas la question. Alors il y a effectivement le syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi la difficulté d'avoir son visage quand t'es une meuf diffusée sur Internet devant un chat Twitch. Et je comprends que les meufs soient plus réticentes que les mecs. Si les gens étaient moi, ils penseraient comme moi. Bah bien sûr. Mais c'est normal. Est-ce que tu as des politiciens qui demandent à être invités? Il y a des responsables politiques qui demandent à être invités, ouais. C'est rarement ceux que je veux inviter. C'est normal. C'est le jeu. Est-ce que des vocaux comme sur France Inter, ce serait possible? Oui, je pense que ça peut être possible, ouais, de faire des vocaux, ouais. On peut diffuser un sonore, comme on dit. Oui, en vrai, ça pourrait se faire, hein. Je suis pas du tout fermé à l'idée. Est-ce que toutes les informations se vaut? Est-ce que toute information se vaut? Non, est-ce que toutes les informations se valent? C'est ça que tu voulais écrire? Bah non, les informations avec lesquelles je suis d'accord sont plus importantes. Lorsque des faits entrent en contradiction avec ma théorie, avec ma foi, je préfère ma foi. Est-ce que tu as déjà refusé un invité? Ah bah j'ai toujours refusé toutes les personnes qui m'ont dit je veux être invité. Toujours. Moi la réponse c'est non, par défaut. Les gens qui viennent me voir en me disant hey, salut, j'aimerais bien être invité dans Backseat, ma réponse c'est toujours désolé, c'est moi qui choisis qui vient, on ne s'invite pas à Backseat. Mais merci de m'avoir de merci de pour l'information, je garde ton numéro au chaud. et je te rappellerai peut-être un jour. On trouve un programme calendrier des prochaines émissions où tout se fait selon les actus. Tout se fait selon les actus. L'invité de la semaine, il est déterminé le lundi pour le jeudi. Sinon, on ne serait pas une émission d'actu. Et comme on veut faire de l'actu. C'est vrai qu'hier soir, on était très majoritairement des hommes blancs dans le public. Mais oui, et c'est à l'image du public de ma chaîne, hein. Je vous rappelle que sur ma chaîne, il y a 80% de garçons et 20% de meufs. C'est un peu le festival de la saucisse. Est-ce que c'est arrivé souvent de s'inviter? Non, c'est pas arrivé souvent. Jean-Massier, physionomiste, t'as des baskets, tu rentres pas. Au contraire, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Et d'ailleurs, je précise que l'émission commence à 8h, à 18h30, mais si vous finissez le boulot et que vous n'arrivez qu'à 19h, c'est possible, hein. 19h, 19h30, enfin vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, il n'y a aucun problème, hein. Surtout, n'hésitez pas. Je voudrais pas que vous vous disiez, ah non, c'est dommage, je peux pas aller à Backseat parce que ça commence trop tôt. Non, vous pouvez venir à plus tard dans le début de l'émission. Après le début de l'émission. C'est comme chez McDo, exactement. Un peu de sociaux, pourquoi autant de gars? Pourquoi il y a autant de garçons par rapport aux filles sur ma chaîne? Pour moi, il y a trois raisons cumulatives. Parce que je suis un mec et que on sait que les visages masculins attirent plus les mecs que les meufs sur des contenus sur Internet, spontanément. Et vice-versa. Deuxièmement, parce que je suis sur Twitch. Or, Twitch est une plateforme de jeux vidéo et qu'on sait que les représentations du jeu vidéo sont très genrées vers le masculin. Et il faut se battre contre ça, il faut que ça continue à évoluer. Ça commence à bouger un petit peu, mais pas suffisamment vite. Et troisième raison, je parle de politique. Et la politique, eh ben, on explique aux petites filles depuis qu'elles sont toutes petites que c'est pas pour elles. Parce que le pouvoir, c'est un truc de garçon. Donc le patriarcat, qui est ce phénomène qui impose du coup cette... Moi c'est un peu ce que j'en déduis. Il n'y a pas plus de mecs sur Twitch tout simplement. Il faudrait que j'aie des stats pour pouvoir l'affirmer. J'ai pas de stats pour pouvoir affirmer qu'il y a plus de mecs que de meufs sur Twitch. Je suppose qu'il y a plus de mecs que de meufs, mais je ne saurais pas te dire la proportion. J'ai des copines streameuses qui, elles, ont une majorité de meufs qui les regardent. Merci Sissou pour ton resub. Merci CC aussi pour ton resub. Merci Antoulm. Merci Drawo. Merci Simply Nemo. Merci pour vos abonnements. Merci. Je suis pas persuadé que le troisième point soit toujours aussi prégnant aujourd'hui, mais c'est une impression. Les choses évoluent. Pas suffisamment vite, mais les choses évoluent. Il y a de plus en plus de femmes en politique, il y a de plus en plus de rôles modèles féminins en politique. Mais les postes de direction sont plutôt, y compris les plus exposés médiatiquement, sont plutôt occupés par des hommes que par des femmes. En politique. Merci Tifok pour ton abonnement, merci. La première ministre, ouais, la première ministre, la présidente de la Commission européenne, la présidente du Parlement européen, la ministre des Affaires étrangères. Il y a des femmes, hein. Il y a des femmes qui ont des rôles, qui ont des postes de pouvoir. Est-ce qu'Elisabeth Borne, c'est la première ministre femme? Non, il y avait Edith Cresson. Edith Cresson avait été première ministre dans les années 90, mais pas pendant très longtemps. 81,5% des utilisateurs sont des hommes. D'où tu tires cette stat, ça m'intéresse. Il y a un document de Twitch. Est-ce que Twitch a déjà communiqué sur la répartition homme-femme des utilisateurs? Je ne l'ai pas vu passer, mais s'il y a un doc, s'il y a un truc, je suis preneur, ça m'intéresse, je suis curieux. Petit sondage sur le chat, bah ouais, regarde. Hop, question. T'es un homme ou une femme? Hop, hop, je vous laisse 2 minutes pour répondre. Paf, le sondage qui part. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Répondez sincèrement. Hein. Commencez pas à truquer le résultat. Moi, ça m'intéresse de savoir à peu près aussi finement que possible. Est-ce qu'on aura une présidente avant 20 ans? Ah ça, j'en sais rien. Est-ce que si Marine Le Pen arrive à nouveau au second tour, elle a des chances d'être élue présidente de la République? Je sais pas. Est-ce que tu envisages d'inviter des personnalités politiques étrangères un jour? Ça dépend de l'actu et il faut que ce soit francophone. Dexit, c'est une émission en langue française. Encore une fois, quand on peut citer si facilement toutes les meufs dans des postes à responsabilité, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu as raison. Je crois que ta part de femme est plus importante que la plupart des autres chaînes du top 50 Twitch. Je sais pas, j'ai pas de stats. Vraiment, j'ai pas de stats. Je peux pas l'affirmer, j'ai pas de. Moi, je connais la proportion dans mon public, mais je connais pas pour les autres. Est-ce que t'as vu la charge de Houllier contre Borne en lui rappelant que c'est le Parlement qui fait la loi, pas le gouvernement, en réponse à l'accord potentiel avec les LR sur l'article 3 de la PPL immigration? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mais c'est ce qu'on en a parlé hier dans Baxit, hein. On en a parlé hier soir dans Baxit, dans les éléments d'actualité. Il y a en ce moment des bisbilles au sein de la majorité sur la question immigration. Et clairement, Sacha Houllier, il est en train d'entrer en fronde contre Elisabeth Borne. Que fait Houllier? Houllier, il veut régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Et Elisabeth Borne, elle veut un accord avec les Républicains pour faire voter la loi 149.3. Et les Républicains, ils mettent comme condition pour voter la loi qu'on ne régularise pas les sans-papiers dans les métiers en tension. Y a l'aspect connaissance de ta chaîne qui doit peut-être jouer sur la présence féminine, c'est-à-dire connaissance. Qu'est-ce que tu entends par là? Bon, il reste 20 secondes pour voter et me dire si vous êtes un homme ou une femme. Et pour l'instant, les résultats, c'est 75% d'hommes. Donc un viewer sur quatre est une vieweuse. Un quart. Régulariser les métiers en tension, traduire par permettre aux patrons de continuer à pratiquer des conditions de travail et de salaire misérables. Bah non, justement, c'est l'inverse. Si tu régularises un sans-papier, tu peux plus le payer au black. Donc tu fais rentrer dans le droit commun du travail, le droit du travail s'applique pleinement aux salariés. C'est pour ça qu'il faut régulariser les sans-papiers. Et ce qu'expliquait hier Usul sur le chat, c'est que selon sa grille d'analyse, il y a une volonté de ne pas régulariser les sans-papiers pour des personnes qui trouvent bien pratique, justement, d'avoir des personnes payées au black qui n'ont pas de droits et que du coup ils peuvent être exploités, beaucoup plus que s'ils étaient protégés par le droit du travail. T'imagines le truc, le gouvernement accepte dans un premier temps la proposition des LR, ils perdent une partie de la gauche de la Macronie, puis au final 49-3 sur la PPL initiale avec article 3. Le gouvernement perd son aile gauche, plus motion de censure LR le bizarre. J'arrive pas à processer, on verra bien comment ça va se passer, hein. On verra bien comment ça va se passer, mais il est possible qu'Élisabeth Borne se casse les dents effectivement sur ce projet de loi. Et l'autre truc qui peut paraître surprenant, c'est que Gérald Darmanin est plutôt sur la ligne de Sacha Houlié que sur la ligne d'Élisabeth Borne. D'après ce que les journalistes du journal Le Monde ont récolté comme information, Gérald Darmanin serait pas forcément favorable à un accord avec les Républicains là-dessus. Est-ce que tu as écouté l'intervention de Villepin sur le conflit israélo-palestinien? Bah, il en a fait plusieurs des interventions, Dominique de Villepin. Et oui, je les ai entendues, ouais. Pour préparer l'émission. Darmanin ne subit pas le backlash du 49-3. Exactement. Moi, c'est une des explications, selon moi, qui fait que Gérald Darmanin peut se permettre de s'en foutre un peu des Républicains. C'est que déjà, il essaye de les pilonner. Hein. C'est lui, son but, c'est de récupérer leur électorat. Et en plus. C'est Elisabeth Borne qui paiera le prix du 49-3. Donc, non, mais on verra. Moi, ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'ils vont se dépatouiller de ce truc-là. Est-ce qu'on va avoir une fronde au sein de la Macronie? Est-ce que même avec les voix des Républicains, il y aura quand même un 49-3? Est-ce que ce sera suffisant même avec les voix des Républicains? Est-ce que tu penses que Darmanin a des chances de devenir le candidat de la Macronie en 2027? Oui, il a des chances. Oui, il a des chances, il fait partie des mieux positionnés pour éventuellement obtenir l'investiture. Mais c'est pas le seul. Et là, on n'est qu'en 2023, on est 4 ans avant l'élection, il peut se passer encore énormément de choses. Est-ce qu'il y a une majorité de gauche pour faire passer cette loi telle quelle? Non. Il n'y a pas de majorité de gauche parce que les insoumis ne veulent pas voter même l'article 3. Et tu peux pas avoir une majorité juste avec les écolos, les communistes, les socialistes et la gauche de la Macronie. Ça fait pas du tout une majorité. Ça fait à tout péter une centaine de votes. Donc c'est moins de la moitié de ce qu'il faut. C'est à peu près un tiers de ce qu'il faudrait. C'est quoi l'article 3? L'article 3, c'est l'article qui prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les filières professionnelles en tension. En dehors de l'article 3, il y a quoi dans cette loi? En dehors de cet article, dans le reste de la loi sur l'immigration, il y a une accélération des procédures sur les demandes d'asile. Une simplification administrative pour les demandes de titre de séjour et une facilitation de l'efficience des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Avec l'ensemble de la Macronie plus les centres-gauche, ça pourrait le faire. Maintenant, c'est clairement de la fiction. Ah, si tu prends l'ensemble des macronistes plus le PS, les écolos, les communistes, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Arithmétiquement, c'est possible. Après, politiquement, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Le 49-3, paradoxalement, ça peut aussi arranger des parlementaires. Je dis paradoxalement parce que, on pourrait croire que les parlementaires sont toujours mécontents quand il y a un 49-3. En réalité, il y a des parlementaires aussi qui sont bien contents de ne pas avoir à voter la loi. Bah, rappelez-vous le débat sur l'article 7 de la réforme des retraites. Le fait qu'il n'y ait pas eu de vote sur cet article-là, c'était quelque chose de voulu par une partie des députés, par les insoumis en l'occurrence. Donc le fait de ne pas avoir à se prononcer sur la loi et de forcer le gouvernement à passer par le 49-3, ça permet de voir une loi qui est appliquée dont tu soutiens une partie des dispositions, mais dont tu t'opposes, mais pour continuer à s'opposer au gouvernement. Ce serait drôle derrière que la France insoumise qui votera la motion de censure LR qui dénoncera le laxisme de la loi. Bah ça, c'est un truc dont on a déjà parlé, on verra, hein. On verra, on verra. Est-ce qu'il faut voter les motions de censure qui sont déposées pour des arguments qu'on ne soutient pas? LFI, en l'occurrence, ils l'ont déjà fait. LFI, ils ont déjà voté une motion de censure qui dénonçait un gouvernement trop de gauche, pour synthétiser. Parce que LFI, ils voyaient un argument tactique en disant la fin justifie les moyens. On veut bien apporter nos voix à celle d'une motion de censure déposée par un autre groupe si le résultat c'est de faire tomber le gouvernement. Et on se fout de ce qu'on vote, ce qui compte c'est le résultat. Et il y en a d'autres à gauche qui sont pas d'accord avec cette analyse. Trop de gauche. Ouais, y a plein de gens qui trouvent que le gouvernement est trop à gauche et pas assez à droite. On n'est pas d'accord avec les arguments, mais nos électeurs nous ont élus pour obtenir ce résultat. Ça passe comme une lettre à la poste. Oui, ça peut passer, mais tout le monde n'est pas d'accord. Justement, la Macronie se revendiquait pas du centre. Mais peu importe ce dont la Macronie se revendique. Quelle que soit la revendication de la Macronie, tu peux avoir un point de vue sur leur position. Un gouvernement trop à droite, un gouvernement trop à gauche. Tu peux. C'est une question de point de vue. Ils ont fait quoi de gauche depuis 2017, du coup, parce que ça me saute pas aux yeux là comme ça. Alors, selon les personnes qui jugent la Macronie trop à gauche, virgule, la Macronie compte sur la dépense publique, ne maîtrise pas les comptes. Enfin, donc c'est l'État qui apporte des solutions à tous les problèmes. Il y a un dérapage des comptes publics. Il y a un laxisme pénal et judiciaire. Il y a trop d'immigrés. Pour ne citer que quelques arguments qui sont avancés. Il y a une bureaucratisation. Il y a trop de progressisme sociétal. La fin de vie, la GPA, etc. L'IVG dans la Constitution et tout. La gauche, la droite, ça dépend de comment tu te places de toute façon. Non mais exactement en plus, hein. La gauche, la droite, ça dépend de comment tu te places. Et il y a des gens qui se placent plus à droite que le gouvernement et qui critiquent le gouvernement en disant qu'il est trop à gauche, à leur goût. État-providence. Ouais. En vrai, ça veut dire quoi bureaucrate? Je veux dire historiquement dans le contexte politique en France. La bureaucratie, c'est la désignation d'un système où l'État, l'administration, a trop de poids, de pouvoir et de responsabilité, y compris des pouvoirs de blocage, de ralentissement, etc. Les libéraux, par exemple, estiment qu'il y a trop de bureaucratie en France, que l'État est trop interventionniste et qu'il y a trop d'État. Faut déposer des papiers, faut demander des trucs, faut avoir l'autorisation, faut avoir le tampon, faut machin. Et les libéraux économiques, par défaut, ils trouvent que la France c'est un pays. Mais historiquement, hein, c'est pas lié à la Révolution, c'est pas lié au XXe siècle, c'était même bien avant. Hein. La France est un pays historiquement, depuis plusieurs siècles, bien avant la Révolution, où l'État a un gros pouvoir d'intervention, où l'État intervient beaucoup, y compris dans le domaine économique. Il faut remonter au mercantilisme, il faut remonter à l'absolutisme royal, il faut remonter à plein de trucs, mais en France, oui, il y a un État puissant en France. Et il y a des gens qui critiquent ça. Les propositions de loi sont-elles quantifiées en fonction du nombre de sièges par parti politique à l'Assemblée nationale? Non, en fait, chaque parti politique, chaque groupe politique à l'Assemblée nationale a la possibilité d'inscrire n'importe quelle proposition de loi dans le calendrier des débats. Donc il y a des jours dans le calendrier qui sont réservés au groupe politique. Et pendant ce jour-là, c'est le groupe politique en question qui décide de la proposition de loi dont on va discuter. On appelle ça une niche parlementaire dans le jargon. Chaque groupe peut se nicher dans un jour pour faire passer ses propositions de loi, ou pour essayer de les faire passer, pour les mettre à discussion et à débat dans l'hémicycle. Ah oui, pardon, faut que je... Hop là, boum. Merci. Pour les niches, c'est un groupe égal un jour par an. Ouais. Pour être plus exact, c'est par session parlementaire, mais comme une session, ça dure à peu près une année scolaire, c'est pareil. Qui est-ce qui gère le calendrier de l'Assemblée nationale? Le calendrier de l'Assemblée nationale, il est co-géré. Une bonne partie est décidée par le gouvernement, donc c'est le gouvernement qui dit de quoi on discute, machin, et une autre partie est dirigée par l'Assemblée nationale elle-même, via le bureau de l'Assemblée nationale, qui peut décider l'inscription de certains textes à l'ordre du jour. Après, il y a plein de procédures que je vous épargne, où il y a des possibilités de faire passer des textes en urgence, il y a des possibilités de sursoir pour en rediscuter plus tard, il y a... Bref, je rentre pas dans le détail, mais le calendrier de l'Assemblée nationale, il est co-géré. C'est quoi la Bellevilloise? Vous en avez parlé déjà? Non, on vous fera une présentation plus précise, mais il y aura bien une édition de Backseat qui ne sera pas tournée au studio, mais qui sera tournée dans un autre lieu avec un partenaire que je vous présenterai plus tard, qui aura lieu à la Bellevilloise. La Bellevilloise, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu à Paris, très grand, dans lequel il y a restaurants, boîtes de nuit, cafés, terrasses, etc. Donc on va faire une émission Backseat en direct d'un événement avec un partenaire à la Bellevilloise. Buttes-Chaumont, c'est pas très très loin des Buttes-Chaumont. C'est pas juste à côté des Buttes-Chaumont, mais c'est pas extrêmement loin non plus. Est-ce que ce sera une émission classique avec invité politique et tout? Ce sera une émission spéciale en partenariat. Il faut encore qu'on décide du calendrier du déroulé. Donc j'ai pas encore tous les éléments, il faut qu'on a des réunions prévues pour parler de ça. Je peux pas encore vous le dire, mais ce sera une émission en partenariat. Je vous tiendrai informé. Est-ce que le gouvernement de Macron a particulièrement plus de casseroles que les précédents ou c'est un biais d'actualité qui donne cette impression? C'est un biais d'actualité qui donne cette impression. Est-ce que pour un souci de séparation des pouvoirs, les règlements de l'Assemblée sont soumis au Conseil constitutionnel? Oui, le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité du règlement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut pas se doter d'un règlement qui contreviendrait à la lettre de la Constitution. Donc oui, le Conseil constitutionnel surveille que les députés fassent pas n'importe quoi avec leur règlement. Les casseroles sous Hollande, je suis jeune, j'en ai pas souvenir. Bah, il y avait Jérôme Cahuzac, qui était ministre du budget et qui a été jugé pour fraude fiscale, évasion fiscale, fraude fiscale. Il avait un compte en banque en Suisse. Ensuite, dans la foulée, la majorité des socialistes à l'époque ont voté une loi pour nettoyer la classe politique, qui s'appelait la loi de transparence de la vie publique, qui a créé notamment la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, qui est chargée de veiller au respect des règles, notamment à éviter les conflits d'intérêts. Thomas Thévenoud. Il y avait Thomas Thévenoud aussi, qui était un ministre qui n'avait pas déclaré ses impôts. Thomas Thévenoud, effectivement. Est-ce que ça a vraiment servi la HATVP? Bah oui. Si la HATVP n'existe pas, il n'y aurait jamais eu d'affaire. Comment il s'appelait déjà, le haut commissaire aux retraites? Delvoye. Après, les socialistes ont aussi créé un autre truc qui est le parquet national financier, donc un parquet, donc un des procureurs de la République spécialisé dans la lutte contre la délinquance en col blanc, comme on dit. Et c'est ce parquet national financier qui a ouvert une enquête sur François Fillon, qui a ouvert une enquête sur Nicolas Sarkozy, sur son financement de campagne. C'est grâce à eux qu'on a les déclarations de patrimoine des élus, je mélange tout. Non, tu mélanges pas tout, c'est exactement ça. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie les déclarations de patrimoine des élus. Ou non, publie les déclarations d'intérêts pour lutter contre les conflits d'intérêts. Et il y a un système de publication en préfecture pour les élus, pour le patrimoine des élus. En fait, quand tu crées une juridiction comme ça, enfin c'est pas une juridiction, mais vous voyez ce que je veux dire, tu facilites la révélation des affaires. Et ça, c'est un truc que je vous avais déjà dit. Moi, je vois comme une bonne nouvelle le fait que les affaires sortent dans la presse et qu'il y ait des tribunaux qui soient saisis. Moi, je vois comme une bonne nouvelle que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, soit traduit devant un tribunal. Plutôt que de regarder le verre à moitié vide en disant oh là là, c'est vraiment des pourris, je me dis mais heureusement qu'on a des institutions dans ce pays qui permettent de leur faire payer le prix de ces fraudes. Donc en fait, j'ai plutôt envie de féliciter les juges, les magistrats, enfin voilà, en fait, il faut pas accuser le thermomètre. Si la température est basse, c'est pas la faute du thermomètre. Et ben le parquet national financier, c'est un peu comme ça que je le vois. On est en train de progresser en tant que société, en tant que pays démocratique, vers une vie politique plus saine. Avec moins de fraude, avec des responsabilités politiques, avec des responsabilités politiques et judiciaires pour les gens qui trichent. Et c'est une bonne nouvelle. Ça va dans le bon sens. Je comprends pas ceux qui disent ça marche pas la HATVP, la preuve, il y a encore des dossiers. Bah oui, non, mais c'est ça, en fait c'est l'inverse. La preuve que ça marche bien, il y a des affaires qui sortent. C'est qu'en fait notre fonctionnement est meilleur. C'est une bonne nouvelle. Et c'est probablement pas encore parfait, hein. Il y a encore des problèmes de corruption. Fabrice Arfi, le célèbre journaliste de Mediapart, l'explique assez bien, régulièrement. En disant qu'on est quand même un pays bizarre, puisqu'on a des hauts responsables publics mis en examen, on a un ministre de la Justice traduit devant la justice, on a des affaires dans tous les sens, etc. Et il a raison. Mais je me réjouis que Fabrice Arfi puisse continuer à faire son travail de Fabrice Arfi et révéler ses affaires. Je me réjouis que la justice ouvre des enquêtes et fasse ensuite son travail pour appliquer la loi, quoi. Donc ça prend du temps. Hop, pardon. Bon, j'aurais bien voulu jouer à Flight Simulator, mais regardez le problème. Voilà. Ah mais non, du coup, faut que je pousse ma cam. Il y a encore une mise à jour de Flight Simulator qui est en cours. Donc je peux pas jouer aux jeux vidéo. Ça me saoule. C'est pas une mise à jour en fait, c'est moi qui ai décidé de clean up mon jeu. Donc j'ai complètement désinstallé Flight Simulator pour le réinstaller. Le problème, c'est qu'il pèse plusieurs centaines de gigas. Et que voilà. Et qu'en plus j'ai plein d'add-ons à réinstaller, etc. Donc ça va prendre du temps. Donc je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de vous faire un stream Flight Simulator. J'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu. Je me demandais sur le Discord, est-ce qu'il y a un chan pour les gens qui se sont abonnés à Baxit ou pas du tout? Malheureusement non. Malheureusement non. L'opérateur par lequel on passe pour les dons à Baxit pour recueillir vos dons, et je vous en remercie, c'est KissKissBankBank, et KissKissBankBank, ils n'ont pas de possibilité de créer des channels Discord réservés aux donateurs. Ils n'ont pas non plus d'alerte de stream. C'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'il y ait des alertes à chaque fois que quelqu'un rejoint le club Baxit. J'aimerais bien qu'il y ait son pseudo avec écrit à rejoindre le club Baxit. Mais il n'y a pas ça non plus. Donc c'est pas grave, on fait 100. On fait 100. Mais ça ne nous empêche pas de nous offrir des chouettes contreparties. Merci Skybreather, merci Wizdred, merci Emilian, merci Escataz, merci J, merci Catlandris, merci Herbarbier, merci Tifok, merci Sissou, merci CC pour vos resubs, merci. D'ailleurs, en parlant du club Backseat, la semaine prochaine, jeudi prochain, il n'y a pas d'émission Backseat. Parce que c'est les vacances, donc on laisse l'équipe se reposer. Mais à la place, il y a un live privé réservé aux donateurs du club Backseat. Ça fait partie des contreparties. Quand vous rentrez dans le club Backseat, vous avez accès une fois par mois. On va faire un live par mois réservé aux donateurs pour discuter de Backseat. Répondre à toutes vos questions, prendre vos suggestions, faire le bilan de là où on en est, etc., etc., etc. Et donc ce sera jeudi prochain à la même heure que Backseat. Du coup, comme ça on a décidé, ce sera plus simple, c'est le même jour et à la même heure que Backseat. Juste avec toi. Avec moi et avec les membres de l'équipe. Je ne serai pas tout seul. C'est sur quelle plateforme? Je ne sais pas encore. On va voir. Tous les donateurs ou juste ceux du club? Tous les donateurs à plus de 10 euros par mois. Donc les membres du club plus les donateurs qui donnent 10 euros. L'équipe technique aussi. On va essayer, ouais, l'équipe technique. On va essayer. On va voir s'ils sont dispo. Après, l'équipe technique, ils sont dans une autre entreprise. Enfin, c'est un prestataire que l'on paye. Donc on n'a pas prévu de les payer particulièrement pour une présence à une réunion un jeudi soir. Donc je comprendrais qu'ils refusent. Mais on va essayer. Les modos aussi. Eh ben les modos, pourquoi pas, ouais. Et je vous rappelle qu'il y a un donation goal que vous avez débloqué, qui est la réalisation d'un making-of. Donc dans le courant de l'année 2024, je peux pas encore vous dire quand parce que je ne sais pas moi-même. Dans le courant de l'année 2024, on va sortir un mini documentaire. Enfin, je sais pas quelle forme ça va prendre d'ailleurs. Faut encore qu'on en discute. Mais le but, c'est de vous montrer les coulisses. C'est de vous montrer les coulisses de l'émission, vous montrer comment on prépare l'émission d'un point de vue technique, d'un point de vue éditorial, de vous présenter les visages, des personnes qui bossent sur l'émission. Est-ce qu'il y aura des pims la semaine prochaine? Je sais pas, je comprends pas la question. Donc ça va être chouette. On va essayer de faire. Donc je sais pas, on va essayer. On va faire une fois par mois ce live privé réservé aux donateurs. Donc n'hésitez pas vous aussi à rejoindre les donateurs. Point d'exclamation qui se kiss dans le chat. Donc voilà. Comment vous faites pour restreindre l'accès seulement aux donateurs? Eh bien, ce sera sur inscription, vous recevrez un mail. Ce sera pas sur Twitch. Je pense pas que ce sera sur Twitch. Donc ouais, non, ce sera jeudi prochain en tout cas. Les modos vont faire des blagues de maths pendant 3 heures. Mais non. Bon, ça va, elle vous a plu l'émission d'hier? Moi, j'étais très content. La première partie avec Ava était vachement bien. Merci à Ava d'être venue. Merci à Ava de nous avoir présenté du coup l'association Dans ma rue. Très très chouette association. J'étais super content de les rencontrer. Alors, ils m'ont dit qu'ils étaient super stressés. Après le plateau, Marion, elle m'a dit, oh là là, j'avais super peur et tout. Je disais, je suis désolé, effectivement, j'ai pas. Moi j'ai l'impression, enfin moi c'est très facile pour moi le plateau de backseat, je suis à la maison, je mets mes pieds sous le bureau, il y a des caméras, des lights et des micros, ça m'impressionne pas, mais c'est normal que pour les autres ce soit très très impressionnant, donc elle était pas à l'aise du tout la pauvre. Moi je l'ai trouvé très bien, hein, je lui ai dit franchement, pas de regret à avoir, hein. T'étais vachement bien, t'étais clair. Et je suis très content qu'Ava ait accepté de venir. C'était une très belle occasion de lui proposer de venir. Vous aviez parlé de la TVA des événements e-sport qui sera alignée sur les autres événements culturels et sportifs. Pas sur le plateau de Backseat, mais on en a parlé sur cette chaîne plusieurs fois, ouais. Je l'ai pas vu que c'est qu'elle était stressée. Bah non, moi non plus, moi je l'ai pas trouvé stressée sur le plateau, c'est pour ça quand elle m'a dit après, oh là là, désolé, j'étais super impressionné et tout, j'ai bafouillé. Je lui ai dit, mais t'as pas bafouillé du tout. Elle a dit, si, quand tu m'as demandé ce que c'était qu'une maraude, bah t'as répondu. T'as pas bafouillé. Pas besoin d'être. Enfin non, je sais pas, moi j'ai trouvé ça très bien. Si ça a été mentionné en passant sur le plateau, non, tu as pas fait un échange rapide avec Usul. Ah si, ah oui, sur la TVA 5.5. Oui, sur l'alignement de la TVA. Ouais, on en a parlé en plateau, ouais. Comme un exemple. Ouais, c'est ça, j'ai cité ça comme exemple du fait que malgré le 49.3, les parlementaires peuvent quand même jouer un rôle dans l'élaboration du budget. Puisque le gouvernement, quand le gouvernement déclenche le 49.3, il présente la version du texte qu'il accepte avec les amendements qu'il choisit de retenir. Donc vous pouvez quand même amender un texte soumis à 49.3. En revanche, c'est uniquement le gouvernement qu'il faut convaincre de garder votre amendement. Et non pas vos collègues députés. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour la TVA sur les événements e-sportifs. Il y a un député qui s'appelle Denis Masseglia qui a déposé un amendement proposant d'aligner le taux de TVA des événements e-sport sur le taux de TVA des autres événements culturels. Et le gouvernement a dit, OK, ça me va, on veut soutenir l'e-sport, donc ça passe. Bien aimé l'apport de Raphaël qui apporte une voix différente de ce qu'on entend habituellement sur Backseat. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis content que Raphaël ait accepté de venir. Et il s'en est bien sorti. Après, c'était une première émission. C'est toujours très compliqué. Il était un peu. Je lui ai dit hein, par texto, dans la forme, il était un peu long. Il faisait des prises de parole assez longues, etc. Ce qui n'est pas grave en soi. C'est pas le premier. Je veux dire, Claire, elle fait pareil. Et on lui en veut pas. Mais non, je suis content que Raphaël ait accepté de revenir sur le plateau, mais cette fois-ci en chroniqueur. Ça m'a surpris le nombre de personnes qui ont pensé que les 5,5% c'était pas une. C'est une logique de faire payer l'entrée moins chère alors que c'est pas ça du tout. Oui, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça va faciliter l'organisation d'événements e-sport. Tous les invités finissent par tuneler aussi. Alors un invité, ça me dérange pas. Un chroniqueur, ça me gêne un peu plus. Mais un invité, il a le droit de tuneler s'il a envie de tuneler, hein. Charge à nous de l'arrêter, hein, si on a envie. Désolé, je trouve qu'il fait trop de propagande. Il devrait être plus objectif ou neutre. Sorry, c'est mon avis. Tu parles d'Usul? Bah, c'est pas gentil pour Usul ce que tu dis. Moi, je le trouve bien, Usul. Mes chroniqueurs ne sont absolument pas tenus à une obligation de neutralité. Il n'y a pas d'obligation de neutralité. La seule chose que je demande à mes chroniqueurs, à chaque fois, je leur rappelle, je leur dis toujours, je ne veux pas d'indignation sur le plateau, je veux des explications. Je suis un peu chiant avec ça. Backseat n'est pas une émission de react à l'actu. Backseat n'est pas une émission de débat, de chaîne d'infos en continu. Donc je ne veux pas que mes chroniqueurs viennent sur le plateau pour s'indigner, pour s'énerver, pour donner leur opinion. Non, je vous demande des analyses. Je vous demande de rendre service au public de Backseat Non pas en essayant de les convaincre, mais en essayant de leur expliquer. Donc je veux des avis. Si vous avez des avis à apporter, vous pouvez les apporter. Je ne vais pas vous claquer la gueule. De toute façon, faites ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez, mais essayez de garder à l'esprit le but pédagogique de l'émission Backseat. Donc faites des explications. Proposez des analyses, des grilles d'analyse, etc. Et c'est ce qu'ils font la plupart du temps. Ça se passe bien. Pas toujours. Usul s'indigne et s'énerve. Oui, ça lui arrive, mais je trouve qu'Usul, il respecte quand même le cadre de Backseat. Usul, il est là depuis le début de Backseat, il commence à bien connaître l'exercice. Parfois, il donne des opinions, mais il propose toujours son opinion sous un angle d'explication. Mais après, bon, t'es pas le premier, je veux dire, il y a plein de personnes qui reprochent à Backseat. Qui est Usul sur le plateau, hein. Je passe mon temps à expliquer à des gens qui me disent que l'émission est trop à gauche, que Usul est trop présent et tout. Je leur dis toujours, bah, je suis désolé, Backseat n'est pas fait pour te plaire. Il y aura toujours des voix différentes de la tienne sur Backseat. Et désolé, mais moi je défends la présence d'Usul sur le plateau. Je ne veux pas d'invité neutre. Ça m'emmerde. Pas de souci pour Usul. Est-ce qu'il y aura des gens de droite face à Usul? Alors, pareil, je veux pas de face à face. Backseat n'est pas une émission de débat, donc je veux pas trouver un face à mes chroniqueurs pour équilibrer. Je veux des avec. Et quand il y a un son de cloche qui est apporté par un chroniqueur, moi je veux qu'il y ait d'autres chroniqueurs qui apportent un autre son de cloche, une autre manière de voir les choses, une autre analyse. Parce que ce qui compte pour moi, c'est que vous, le public, vous ayez accès à une pluralité d'analyses. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, oui, il y aura des gens qui pensent pas comme Usul à côté d'Usul, oui. Heureusement d'ailleurs. Et c'est pas spécifique à Usul. C'est pareil pour tout le monde. Et de toutes les façons, Backseat ne sera jamais, ne correspondra jamais à ce qu'en attendent les militants. Et c'est très bien. Ça tombe bien, c'est pas à ceux à qui l'émission s'adresse. Donc c'est pas grave. Les passionnés de politique, les militants, les gens engagés, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Ils sont souvent là. Ils sont souvent là dans le public. Ce n'est pas le public visé par Backseat. Donc c'est normal que Backseat déçoive les militants. C'est pas fait pour leur plaire. C'est pas grave. Merci à toi pour cette approche pluraliste. Mais il y aura toujours une approche pluraliste sur Backseat. Parce que si je voulais pas faire d'approche pluraliste, pourquoi est-ce que je m'emmerderais à faire un plateau à 13 000 balles? Je pourrais très bien être seul chez moi, là comme aujourd'hui, en charentaise, en pilou-pilou, et donner mon opinion à moi sur l'actualité. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'éditorialement, je trouve pas ça intéressant. Je préfère faire une émission plurielle, avec plusieurs points de vue, avec plusieurs grilles d'analyse, etc. J'adore le duo Sacha Usul, les avis sont différents mais ils arrivent à communiquer. Ouais. Est-ce que le Potichat va bien? Oui, le Potichat va bien. Le Potichat va bien, elle est sous mon lit à l'heure actuelle. Elle vous embrasse. Est-ce que tu connais Delphine Bateau? Pas personnellement, non, mais je vois qui est Delphine Bateau, ancienne ministre de la transition écologique sous François Hollande. J'ai eu du mal de qui Usul parlait quand il disait on. Je comprends pas ta question. Je suis d'accord, c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue, et c'est souvent t'invites des points de vue qu'on voit déjà partout ailleurs, notamment ici. Ouais, mais ça c'est normal. C'est normal. Backseat n'est pas une émission alternative. Backseat, je suis pas là pour inventer des points de vue qu'on n'entend nulle part. Moi je veux pas non plus faire de Backseat l'émission qui donne la parole à ceux qui l'ont jamais. Non, ça m'intéresse pas. Il y a d'autres émissions qui font ça. Mais Backseat, c'est une émission d'actu. Donc, c'est normal que vous entendiez sur le plateau d'actu des analyses que vous entendez ailleurs. Sandrine Rousseau, on l'entend déjà beaucoup. Elle est invitée dans beaucoup de médias. Quand on invite des personnalités politiques de premier plan, eh ben, il y a forte chance que vous les ayez déjà vues, c'est normal. Tu voudrais pas prendre des chroniqueurs plus âgés ou plus pros? Non. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ça peut débattre sans se mettre sur la gueule et s'invectiver. Ouais, ça peut apporter des arguments, bien sûr. J'ai eu du mal à comprendre parfois de qui Usul parlait quand il disait on, souvent. D'accord. Eh bien, je ne saurais pas te dire parce que j'ai pas le contexte de la phrase dans laquelle il a dit on. Moi, j'aime bien et j'ai pas d'argument. C'était pour apporter de la diversité ou un autre point de vue à l'émission. Mais moi, je veux de la diversité. Je veux de la diversité, mais je veux pas d'équidistance. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que la barrière s'arrêtait à l'extrême droite et que je ne veux pas avoir d'invité politique d'extrême droite sur mon plateau. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, ce sera une émission où on n'entendra que des gens de gauche. Non. Y a pas de conclusion immédiate à ça. C'est pas comme ça que ça marche, Baxit. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que Sandrine Rousseau semblait honnête et parlait avec ses tripes, contrairement à beaucoup d'autres invités politiques. Oui, je suis d'accord avec toi. Sandrine Rousseau, hier soir, je l'ai trouvée très... Très... Oui, je vois ce que tu veux dire. Très engagée, très humaine. Enfin, elle parlait vraiment du fin fond de ses convictions. J'ai trouvé chouette l'échange qu'on a eu hier avec Sandrine Rousseau. Je la trouvais vraiment dans l'exercice de Baxit. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Son analyse de Macron, c'était gold. D'ailleurs, c'est assez intéressant, ça, l'analyse qu'elle a proposée. Regardez ce qu'on m'a offert hier, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure quand je l'ai montré. C'est une clé USB du Parti Socialiste. Quelqu'un m'a offert ça. Quelqu'un qui est venu dans le public hier. Merci. Non, ouais, Sandrine Rousseau qui expliquait à propos d'Emmanuel Macron que la démocratie, c'est l'apprentissage de l'échec. Et que, selon elle, Emmanuel Macron est incapable d'être minoritaire. De se faire expliquer. Enfin, il peut pas ne pas avoir raison. Il ne sait pas faire ce qu'ont fait des politiques par le passé, c'est-à-dire accepter de revenir en arrière quand clairement ça ne passe pas. Dominique de Villepin et Jacques Chirac avaient supprimé le CPE parce qu'il y avait des manifs dans la rue. François Hollande avait retiré l'écotaxe, je crois. Ouais, c'était ça. Trop trop d'ego. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, c'est vrai que je trouvais cette analyse de Sandrine Rousseau assez intéressante. J'y avais pas pensé, mais effectivement, Emmanuel Macron n'a jamais été élu. Il a jamais perdu d'élection. Il a jamais été minoritaire, en fait. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Sandrine Rousseau. La démocratie, c'est l'apprentissage, parfois, et bah, du fait désagréable, de faire l'expérience désagréable de la minorité. Quand ça passe pas, ça passe pas. Et bah, ton opinion va pas s'appliquer. Désolé. Et Macron est terriblement convaincu que si ça passe pas, c'est parce que les gens n'ont pas compris et qu'il faut continuer à leur expliquer. Il faut faire un travail de pédagogie. Oui, mais non, en fait, c'est pas la pédagogie le problème, c'est que les gens sont pas d'accord. La démocratie, c'est pas retirer une loi dès qu'une minorité s'exprime avec violence ou véhémence. La politique cède en général trop vite aux contestations. Bah, ça dépend. Alors, c'est intéressant, mais du coup, où est-ce que tu mets la limite? Où est-ce que tu mets la limite? Regarde, Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu un vote, hein. Les gens ont voté pour. Et finalement, on fait pas l'aéroport, parce qu'il y a des zadistes qui veulent pas. Bon. Regarde la réforme des retraites. T'as plus de 80, 80, 90% de la population qui est contre la réforme des retraites. Et pourtant, on l'a fait quand même. Donc je suis d'accord avec toi. Elle est où la limite, en fait? Y a pas de bonne réponse à la question que je suis en train de poser, hein. La question que je suis en train de poser, c'est un dilemme éternel pour tous les gouvernants. Partout, même au niveau local. C'est toujours la difficile équation de savoir à quel moment est-ce qu'on arrête d'avancer quand on sent que ça veut pas, quoi. Que ça refuse. Il y a un refus d'obstacle. Merci Gaïa pour ton resub, merci beaucoup. Merci beaucoup Skybreather. Merci beaucoup Wizdred. Merci Emiliane. Merci pour vos resubs. Il fait avec les règles du jeu de la cinquième. Ouais, il fait avec les règles du jeu de la cinquième. Mais une république, c'est pas que un texte, c'est aussi un esprit. Est-ce qu'Emmanuel Macron est vraiment dans l'esprit de la cinquième? Je sais pas. Mais il n'y a rien qui, effectivement, dans la Constitution, oblige un président à écouter les syndicats. Il joue la méta. Ouais, il joue la méta. Il joue la méta à son avantage. Au demeurant, il a raison de le faire, hein. Président de la République sous la Ve République, c'est une très belle planque, vu que t'es responsable devant personne. Être dans l'esprit serait de ne pas respecter les règles de la République. Mais c'est quoi les règles de la République qui sont enfreintes par Emmanuel Macron? Justement, c'est ce qu'on dit. C'est que les règles lui sont extrêmement favorables. Tous les outils dont il peut avoir besoin sont déjà dans la Constitution. Donc en fait, il respecte la Constitution. Le problème, c'est pas Macron. Le problème, c'est la Ve République. Le problème, il n'est pas personnel avec Macron. C'est pas sa personne, le problème. Le problème, c'est le poste de président de la République tel qu'il est défini dans les textes. Pour toi, c'est quoi être responsable quand on est élu? Car tu viens de dire que Macron n'est pas responsable politiquement. Parce que le président de la République n'a pas de responsabilité politique sous la Ve République. Le Premier ministre, par contre, il est responsable devant l'Assemblée. Ça veut dire, en gros, c'est qui le patron? Qui est-ce qui est au-dessus de toi et qui peut te... Et qui peut te renverser? Un président n'a pas beaucoup de pouvoir quand il est battu aux législatives. Exactement, en cas de coalition... de cohabitation, pardon. Exactement. Donc ça veut dire que c'est qui le supérieur hiérarchique du président de la République? C'est les électeurs. Si les électeurs décident de suivre le président de la République en lui confiant une majorité, alors le président de la République a vraiment les mains très larges pour gouverner. En revanche, si les électeurs décident de ne pas donner de majorité au président de la République et de la donner à son opposition, alors le président de la République n'a plus, pratiquement plus aucun pouvoir. Ce serait marrant, Macron responsable qui doit répondre à Marine Le Pen à l'Assemblée chaque mardi. Non, le président de la République, s'il est élu au suffrage universel direct, ne peut pas être responsable devant le Parlement. Là, il faut séparer les pouvoirs assez clairement. C'est quoi la théorie des jeux en politique? Est-ce que c'est comme le décrit Science for All dans sa playlist datant de 2007 sur la démocratie? Je sais pas, je connais pas la ref. Aux USA, c'est un peu ça d'une certaine façon. Aux États-Unis, c'est assez difficilement comparable. Les États-Unis ont une approche un petit peu différente. Et oui, le président de la République, enfin le président américain a un certain nombre de pouvoirs, mais qu'au niveau fédéral, il peut pas empiéter dans les compétences des États, parce que c'est un pays fédéral. Donc du coup, en fait, on peut pas comparer. La limite de la comparaison s'arrête assez vite entre les États-Unis et la France. Tu penses quoi d'une loi qui interdirait de se présenter si on a un casier judiciaire non vierge? Moi, je ne suis pas tout à fait favorable à ce type de loi-là, parce que ça donnerait aux opposants beaucoup trop de facilité pour faire sortir du jeu politique un adversaire. Et ça donnerait trop de pouvoir au juge. Là aussi, un pouvoir trop important. Par rapport à la démocratie. Faut être extrêmement précautionneux sur les règles d'éligibilité, parce que exclure du champ politique des opposants un peu trop gênants en les faisant condamner en justice, c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de démocraties faillibles, pour ne pas dire faillies. Erdogan, Maduro et Poutine adorent utiliser ça. Voilà, très bon exemple. Vladimir Poutine likes 10. Donc moi je suis pour que la justice ait la possibilité d'exprimer une peine d'inéligibilité pendant plus ou moins longtemps, que ce soit au regard du juge, mais je ne suis pas pour la disqualification par la justice de candidats aux élections juste avec des condamnations de type quasi-judiciaire. Autre exemple que je te donne. Admettons qu'on mette en place un système où tu n'as pas le droit de te présenter à une élection si tu as un casier judiciaire non vierge. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un a fait un délit quand il avait 22 ans et qui veut être candidat sur une liste pour être conseiller municipal quand il en a 64? Est-ce qu'il y a un droit à l'oubli? Est-ce qu'on a le droit d'avoir été con quand on était jeune et de plus l'être quand on est plus âgé? Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je vois une fausse bonne idée dans cette idée-là. C'est-à-dire que c'est une bonne idée parce que ça part d'une bonne volonté, d'un bon sentiment, mais c'est une fausse bonne idée, c'est plutôt une mauvaise idée parce que ça a des implications pas tout à fait souhaitables, y compris pour la vitalité démocratique. Alors attendez. Il y a Flight Simulator qui a fini de se mettre à jour. Et maintenant, on lance la deuxième mise à jour. Oh, ça va, elle est pas trop lourde celle-là. Merci Arnaud pour ton resub. Merci Pâte de fruits. Merci Zeden. Merci Ngaya. Merci pour vos abonnements, ça fait plaisir. Il faut un casier judiciaire vierge pour plein de métiers, c'est un peu embêtant, parfois pour les mêmes raisons que tu viens de citer. Élu, ce n'est pas un métier. Je le répète, un élu, un maire, un député, un conseiller régional, un président de conseil départemental, ce n'est pas un métier, c'est un mandat. Les règles ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas une embauche. Merci Calasson. Merci au Béla Courge. Bah non, c'est pas merci à toi, mais il y a quelqu'un qui. Il y a un anonyme qui a offert un abonnement à Bob la Courge. Bah merci à toi. Merci Pkandorham aussi. Y aura-t-il des invités de plus à droite sur Backseats? Bah il y en a déjà eu. Et oui, il y en aura encore, évidemment. Tu peux pas bosser à la mairie avec un casier non vierge, sauf si tu es le maire. Le maire ne bosse pas à la mairie. Le maire n'a pas de métier. Élu, ce n'est pas un métier, c'est un mandat. Les fonctionnaires de la mairie relèvent de la fonction publique territoriale. Ils travaillent dans le cadre du code de la fonction publique, avec ces règles-là. Le maire n'est pas un fonctionnaire de la mairie. Le maire peut très bien être charpentier. Le maire peut très bien être charpentier. Il y a plein de charpentiers qui sont maires dans ce pays. Il y a plein de médecins qui sont maires. Il y a plein d'avocats qui sont maires. Il y a plein d'enseignants. Il y a plein de pompiers, de chômeurs, d'experts, d'agriculteurs, d'éleveurs, de commerçants. Sauf pour Jésus où le charpentier c'est le père. Quel est l'intérêt premier de cette distinction? Eh ben, c'est de désigner deux réalités différentes qui répondent à des logiques différentes. Un métier dans la fonction publique, c'est obtenu par concours. Un mandat, c'est obtenu par élection. Donc ça ne procède pas des mêmes logiques. Donc ça ne répond pas aux mêmes principes. Par exemple, un fonctionnaire a une obligation de neutralité. Un maire n'a pas d'obligation de neutralité, parce que sinon il ne pourrait même pas faire de politique. Pourquoi un mandat donne accès à des pensions de retraite? Parce qu'un mandat ne donne pas accès à des pensions de retraite. Les indemnités perçues dans le cadre d'un mandat sont soumises à cotisation retraite. Les indemnités, virgule, lorsqu'elles existent, virgule, sont soumises à cotisation retraite. Donc tu cotises pour ta retraite sur tes indemnités d'élu quand tu es élu. Quand tu es élu et quand tu as une indemnité pour ça. Il y a plein d'élus qui n'ont pas d'indemnité du tout. Hein. C'est quoi une obligation de réserve pour les fonctionnaires? Un prof ne peut pas afficher ses idées politiques. Un fonctionnaire, par défaut, un agent de l'État, se doit, dans l'exercice de ses missions, virgule, d'observer une posture neutre d'un point de vue politique, philosophique, religieuse ou de conscience. Je dis bien en principe parce qu'après, il y a des exceptions. Ça dépend du type de métier, ça dépend de beaucoup de choses. Mais par principe, ça fonctionne comme ça. Ça dépend du corps de fonctionnaire, ça dépend. Par exemple, pour les militaires, c'est très très strict. Pour les enseignants dans l'enseignement supérieur, ça l'est moins. Ça dépend, ça dépasse. Kevin Bossuet, qui est prof, il affiche, je ne sais pas qui c'est. Quand tu es enseignant dans le cadre de tes fonctions, quand tu es à l'école, tu as le droit d'avoir des opinions politiques et de les partager. Un fonctionnaire ne fait pas vœu de silence. Un fonctionnaire a le droit d'être syndiqué, un fonctionnaire a le droit d'adhérer à un parti politique, un fonctionnaire a le droit de faire grève, un fonctionnaire a le droit de manifester. Les ministres ne sont pas élus ni choisis sur concours, on pourrait mettre des conditions à la nomination. Il y a des conditions, je ne sais plus exactement lesquelles, pour être nommé ministre. Et oui, tu as raison, on pourrait changer la règle. Moi, je suis d'accord, hein. Moi, je serais pour qu'on ne puisse pas nommer ministre une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, au cours des 5 ou 10 dernières années. Quand un de mes collégiens me demande ce que je pense du conflit israélo-palestinien suite à l'assassinat d'Arras, je ne peux pas lui donner mon avis. Tu dois observer une réserve, mais dont l'interprétation est plus ou moins lâche. On va dire ça comme ça. T'as le droit de dire à un collégien si tu es prof que tu es horrifié par les attaques, que tu es triste, que tu es choqué. T'as le droit de lui dire que tu es énervé, t'as le droit de lui parler au collégien. Mais en principe, tu dois te restreindre à faire de œuvres de prosélytisme. C'est pour ça que je précise bien dans l'exercice de ses missions et de ses fonctions. Dans l'armée, tu ne travailles pas, tu sers, tu ne perçois pas un salaire mais une solde, tu n'as pas de contrat, mais un contrat de travail mais un contrat d'engagement. Ceci dit, servir demande du travail, absolument. Très très bien de le préciser, l'armée a elle aussi son propre jargon, et c'est pas juste du jargon parce que ça désigne des réalités particulières. Un militaire n'est pas un employé, ce n'est pas non plus un fonctionnaire comme les autres, il fait un service, il sert. Il ne perçoit pas une indemnité de fonctionnaire, ou une traite, ou un traitement, pardon, il reçoit une solde. Il n'a pas de contrat de travail, mais il a un contrat d'engagement. Non, mais c'est vrai, t'as raison, et les mots sont importants. T'as raison de le préciser, ouais. Idem pour les fonctionnaires, on a un traitement. Idem pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont une fonction publique. Ils sont investis d'une fonction publique et ils n'ont pas de salaire, ils ont un traitement. Et si on utilise un mot différent, c'est précisément parce que ça répond à des logiques différentes. Ça, c'est assez important en droit. En droit, c'est un truc qu'on apprend assez rapidement quand on fait des études de droit. C'est l'importance d'utiliser le bon mot de vocabulaire pour désigner la bonne chose. Parce que ça a des implications. On pourrait se dire, oui, bon, c'est bon, on peut vulgariser et utiliser le même mot. Oui, mais non, parce que assez rapidement, ça va atteindre une limite qui est qu'on n'aura plus la précision nécessaire pour désigner la réalité spécifique de ce dont on est en train de parler. La propriété d'une chose, ce n'est pas la même chose que l'usage d'une chose, qui n'est pas la même chose que l'usufruit, qui n'est pas la même chose que le droit de disposer, la disposition d'une chose. Ce sont des droits différents. Ça répond à des logiques différentes. Il ne faut pas les mélanger. Ou la nue propriété, exactement. Attendez. Hop, pardon, excusez-moi. C'était un démarchage téléphonique. Je le sais qu'il faut pas que je réponde au numéro de téléphone inconnu. Jamais. Oui, donc je vous disais, en droit, on apprend, quand on fait du droit privé, et notamment du droit, ce qu'on appelle le droit des obligations, pardon de rentrer dans le détail un peu chiant, on apprend par exemple à distinguer les différents types de propriétés d'un objet. On utilise des mots latins pour ça. Posséder un objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un droit qui est attaché à cet objet et que ça peut être de... Alors, de mémoire, c'est l'abusus, le fructus et l'usus. Usus, fructus, abusus. Ouais, c'est ça. L'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est le droit d'usage. Le fructus, c'est la propriété sur les fruits de cet objet. Et l'abusus, c'est la possibilité de disposer de cet objet. Par exemple, l'exemple qu'on donne aux étudiants pour leur apprendre, on leur dit un pommier. Quand tu es propriétaire d'un pommier, c'est que tu as l'usage du pommier, donc tu as la possibilité de l'utiliser. Tu as le fructus, tu as les fruits du pommier, donc les pommes qui tombent par terre t'appartiennent. Tout ce que ton objet que tu possèdes va produire va te revenir. Et tu as l'abusus, ce qui veut dire que tu as le droit de disposer de ce pommier. C'est-à-dire que tu peux le couper si tu veux, et que tu peux le vendre si tu veux, ou le donner. Et pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce détail-là quand on fait du droit? Parce qu'ensuite, il y a certains types de droits qui mélangent une partie ou l'autre. Par exemple, l'usufruit. L'usufruit d'un appartement, ce n'est pas la nue propriété de l'appartement. Tu as l'usus et le fructus, mais tu n'as pas l'abusus. C'est ton appartement, puisque tu as le droit de vivre dedans, que tu as le droit de récolter les fruits de cet appartement, par exemple, si tu y travailles, mais qu'en revanche, tu n'as pas la nue propriété de l'appartement, tu ne peux pas le mettre en vente. Il n'est pas à toi. d'un point de vue de la nue propriété, d'un point de vue de la propriété d'usage, enfin de non, de disposition. Fin de cette parenthèse, c'était une toute petite introduction au droit privé. Et c'est un exemple que j'utilise pour vous dire pourquoi c'est important d'utiliser le bon mot de vocabulaire pour désigner la bonne chose. C'est pour ça que je rappelle toujours que un élu, c'est un mandat. Un élu, il a un mandat, il n'a pas une fonction publique, il n'a pas non plus un contrat de travail. Est-ce qu'il y a de la bonne vulga de droit public et privé sur YouTube? Bah oui, il y a une chaîne qui s'appelle Vous avez le droit. Vous avez le droit qui fait de la vulgarisation juridique. T'as fait combien d'années de droit? 4. 4 ans d'études de droit. C'est une super chaîne. Ouais, c'est une très bonne chaîne. Vous avez le droit. Fait de la vulgarisation juridique et de la vulgarisation judiciaire aussi. Ça, c'est chouette. Il y avait Angle Droit aussi à l'époque, ouais, il y avait Angle Droit, il y avait Lex Tutor aussi à l'époque. Bon les copains, je vous propose un truc. Il y a un nouvel hélico qui vient de sortir sur Flight Simulator. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et j'ai envie d'essayer d'y jouer ce soir. Voilà, le H160 de High Performance Group, l'excellente équipe qui avait déjà fait le H145, qui avait déjà fait le A32 NX, il est disponible depuis aujourd'hui, 27 octobre. Je suis en train de mettre à jour mon jeu pour pouvoir l'acheter. Enfin, je l'ai déjà acheté en fait, j'ai déjà fait un vol tout à l'heure en début d'après-midi pour tester des trucs, mais comme le jeu arrêtait pas de planter, j'ai décidé de le désinstaller pour le réinstaller. Donc là, on est en pleine réinstallation de Flight Simulator. Et le but du jeu, c'est que dès que j'ai fini de réinstaller le jeu, ce soir, probablement après le dîner, ou alors demain samedi, je relance un live et on teste enfin ce H160, très attendu. Ça fait vraiment un bout de temps que je l'attends. C'est un hélico extraordinaire. Extraordinaire. Bref, merci les copains. Je vous fais des bisous. Je vais arrêter le stream ici. Et je reviendrai peut-être dans quelques heures ou alors demain. D'accord? Si vous voulez voir du Flight Simulator, ce sera le moment. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Bonne soirée. À toutes. Ciao.